France Inter. Le 18-20. Pierre Veil.
Voici le téléphone sonne. Première partie jusqu'à 18h55. C'est votre émission. La rédaction en chef, Philippe Bardonneau. La préparation, Irène Menahem, Virginie Rouzic. La documentation, avec Jean Brossier. Et la réalisation est signée Arnaud Caillet et Ludovic Asselot. On attend vos appels, vos mails. N'hésitez pas. Notre thème, l'université au temps du coronavirus. Emmanuel Macron a annoncé une réouverture progressive des écoles à partir du 11 mai. En revanche, pour les étudiants de l'enseignement supérieur, les cours ne reprendront pas. Les universités sont donc fermées aux étudiants jusqu'en septembre. Alors, quelle est la situation des 2 600 000 étudiants? Comment suivre des cours à distance? Comment marche la continuité pédagogique dans l'enseignement supérieur? Quel déroulement pour les examens? Contrôle continu? Devoir de remplacement? Examens en ligne ou alors reprogrammer plus tard les examens? On attend vos témoignages aussi sur la précarité économique qui touche de nombreux étudiants. Beaucoup travaillaient et ont été licenciés ou sont en chômage technique. Privés de job, cloîtrés, les étudiants les plus démunis sont tenaillés par la faim et l'angoisse. C'est le titre d'une tribune publiée dans Le Monde cette semaine et signée par plus d'un millier d'universitaires. Vos questions, vos témoignages, c'est maintenant au standard du téléphone sonne.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et pour vous répondre, Orlane François, présidente de la FAGE, Fédération des associations générales étudiantes. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes en ligne, bien sûr, au bout d'une ligne numérique en raison de la situation sanitaire. Plus d'invités dans les studios de France Inter. Dominique Marchand est avec nous, présidente du CNUS, Centre National des Œuvres Universitaires et Scolaires. Bienvenue Dominique Marchand.
Merci, bonsoir à tous.
Et avec nous aussi Gilles Roussel, le président de la Conférence des Présidents d'Université. Monsieur Roussel, bonsoir.
Bonsoir à vous.
Merci d'avoir accepté l'invitation de France Inter. Alors déjà, de nombreux courriels sur le site de l'émission et des questions qui reviennent systématiquement. Je les rassemble, je les résume, on nous pose des questions. Mais comment vont se dérouler les examens, Gilles Roussel?
Alors, c'est une question effectivement qui revient régulièrement de la part des étudiants. En fait, ça va dépendre beaucoup de la formation dans laquelle l'étudiant est. Et donc, la première chose que je peux conseiller, c'est à l'étudiante, c'est de se rapprocher de la formation dans laquelle il est, le responsable de la formation ou le directeur des études, qui sera en mesure de lui préciser exactement comment les examens vont se passer dans sa formation. Dans certains cas, eh bien, on va avoir recours et on a commencé à déjà avoir recours à des travaux pratiques particuliers qui sont réalisés à la maison, des devoirs sur à la maison qui peuvent être réalisés. Il peut y avoir des examens en ligne et puis potentiellement si le déconfinement se confirme, on pourra avoir éventuellement, mais il faut que ça reste et ça sera probablement assez marginal, des examens en présentiel pour assurer la sécurité, pour éventuellement permettre à certains étudiants qui n'auraient pas pu être présents ou qui n'auraient pas eu accès aux examens en ligne, eh bien, de pouvoir valider leur année dans les meilleures conditions possibles.
Donc il n'y aura pas de décision commune à toutes les universités, cela dépendra de chaque université, la façon de passer les examens, Gilles Roussel.
En fait, ça dépend même plus précisément de chacune des formations. Vous comprenez bien que dans le cas d'une formation en STAPS, les modalités d'examen vont être différentes de la médecine ou des mathématiques. Les modalités d'examen et ce qui reste à faire au cours de l'année en termes d'examen. Certains ont déjà validé un certain nombre de choses en début de semestre, avant le confinement. Donc ça dépend vraiment de la formation dans laquelle et l'étudiant, et donc il doit se rapprocher. En ce moment, chacune des formations est en train de redéfinir les modalités de contrôle des connaissances pour les adapter au confinement, et donc on informe les étudiants au fur et à mesure de la validation de ces modalités de contrôle des connaissances, et donc s'il a des inquiétudes, s'il se pose des questions, eh bien il faut qu'il revienne vers son responsable de formation, le secrétariat qui lui permettront de donner toutes les informations nécessaires à la validation de son année.
Orlane François, présidente de la FAGE, la Fédération des associations générales étudiantes, que pensez-vous de cette situation, de ces examens qui vont se dérouler de façon très, très différente?
Alors déjà, il faut rappeler qu'on est dans une situation qui est inédite. On traverse une crise qu'on n'a jamais vécue, notamment au cours de ce dernier siècle. Donc évidemment, on va être dans une situation où on va avoir des cas difficiles à gérer et où forcément le déroulement de l'année est perturbé. Nous, ce qu'on a rappelé, en tout cas à la FAGE, c'est que en effet, il y a des modalités qui sont variables selon chaque département de formation, comme ce qui vient d'être dit par Gilles Roussel. Par contre, nous, on a certains éléments sur lesquels on demande vraiment à ce qu'il y ait des règles qui soient respectées par l'ensemble des établissements, par l'ensemble des formations, sans quoi les inégalités vont vraiment se creuser.
Par exemple,
nous, on a des grosses craintes. Bah, la question, par exemple, de l'accès, on sait qu'il y a des étudiants qui n'ont pas accès à une connexion Internet de bonne qualité, ou bien des étudiants qui ont vu leur nombre d'heures de travail augmenté parce qu'ils sont caissiers ou caissières dans un supermarché et du coup ils travaillent plus que la normale. Et d'où il faut forcément leur proposer, en tout cas proposer des modalités d'examen adaptées. Et notamment, nous, ce qu'on dit, c'est que premièrement, il faut uniquement des examens qui sont des examens sur table, donc des devoirs à rendre, mais pas de telle heure à telle heure. C'est-à-dire qu'on donne un sujet, l'étudiant travaille dessus et le rend ensuite à son prof. Le risque des devoirs en ligne, en direct, c'est qu'on a des gens qui puissent pas le réaliser. Et puis ensuite, surtout, nous, il y a un élément qui est essentiel. Au-delà des examens, il y a eu des problématiques dans l'accès aux enseignements à distance. Depuis le 13 mars, les établissements sont fermés et donc les enseignements ont dû se poursuivre, mais à distance. Mais on a des jeunes qui n'ont pas pu les suivre parce qu'ils étaient malades, parce qu'ils devaient travailler, parce qu'ils n'avaient pas de connexion Internet. Et donc ce qu'on dit là vraiment, c'est qu'on demande aux établissements de ne pas évaluer des choses qui ont été travaillées entre le 13 mars et aujourd'hui, parce que sinon, à tous les coups, on va avoir des étudiants qui vont être perdants.
Mmh. Gilles Roussel, que pensez-vous de ces demandes d'Orlane François avant d'aller au standard?
Alors oui, il y a un certain nombre de choses qui sont totalement légitimes, effectivement, dans les propos d'Orlane François et dans ses demandes, dans les établissements. Donc le maître mot qu'on a, c'est quand même bienveillance et faire en sorte à tous les étudiants d'avoir les meilleures conditions pour valider. Et donc effectivement, il faut arriver à faire en sorte que les modalités puissent permettre à chacun de passer des examens dans les bonnes conditions. On met beaucoup de choses en place dans les établissements, notamment autour de la fracture numérique. Des efforts importants sont faits pour fournir des ordinateurs à ceux qui n'en ont pas, des connexions Internet, des clés 3G pour leur permettre de se connecter. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour essayer de réduire les inégalités autant que de possible. Pour autant, il restera des cas très particuliers. On a bien sûr des étudiants qui sont rentrés chez eux, voire dans des pays étrangers. Il faudra trouver pour ces étudiants la capacité de leur faire passer des examens et de ne pas perdre leur année ou leur semestre en l'occurrence. Et donc toutes les modalités essayent d'être mises en place pour personnel d'un établissement. Croyez-moi, l'ensemble des enseignants-chercheurs et des enseignants qui interviennent dans les formations sont très attentifs à la réussite des étudiants et font leur maximum pour que ce soit le cas.
Noémie est à Nîmes, elle écoute le téléphone sonne. Noémie, merci de nous écouter et de participer à notre émission. C'est à vous maintenant.
Bonjour. Eh ben, écoutez, oui, je voulais témoigner parce que déjà, effectivement, moi, je voulais féliciter la fac de Nîmes qui met tout en œuvre pour aménager. Alors moi, je cumule un petit peu parce que je suis.
Qu'est-ce que vous voulez dire par aménager, Noémie ?
Alors, aménager les cours à distance, c'est-à-dire que dès l'annonce du confinement, chaque professeur nous a fait un mail en nous disant qu'ils allaient revoir les cours, etc., faire des supports audio pour chaque PowerPoint, etc. Donc vraiment, il y a une grande disponibilité de chacun des profs, mais il faut entendre que tout cet afflux de mails, d'informations, de modifications engendre un stress énorme pour les étudiants. Parce que c'est très compliqué de changer l'organisation, etc., de travail, plus le fait que la situation est stressante. Ouais. Et moi, je voulais témoigner parce que je travaille à côté pour pouvoir payer mes études et je suis auxiliaire de vie. Donc, j'ai voulu travailler pour être, parce qu'il me semblait nécessaire de pouvoir soutenir les personnes les plus vulnérables. Donc, quand vous travaillez et maintenir une continuité pédagogique, c'est très compliqué, c'est très fatigant. Et en plus de ça, je cumule parce que je viens d'être infectée et que je viens de 15 jours mis en quarantaine à cause du Covid. Donc si vous voulez, là, à l'approche des partiels, je peux vous dire que c'est un petit peu compliqué de tout, d'essayer de tout, voilà, tout rattraper, essayer de fournir le travail nécessaire pour parce que les profs maintiennent une certaine exigence, chose que je comprends, mais c'est vraiment très dur.
Et ça fonctionne bien, cette liaison à distance numérique pour préparer ces partiels? Vous estimez que vous avez toutes les cartes en main pour assez bien préparer ces examens?
Alors, oui et non. Alors, oui, dans le sens où les profs nous ont mis des supports qui étaient vraiment bien faits. Néanmoins, les supports de les forums, les supports de discussion entre les intervenants et les profs, ouais, dans les plages horaires de TD, les serveurs de la fac n'ont pas pu supporter. Donc, heureusement qu'on a eu des étudiants qui ont eu la bonne idée de mettre en place des forums de discussion sur Discord de façon à ce qu'on sorte, si vous voulez, des supports de la fac pour pouvoir discuter plus facilement. Donc ça, c'est vraiment très bien. Sauf qu'effectivement, comme il a été dit au préalable, quand vous travaillez et que vous ne pouvez pas être là pendant les heures de discussion, du travail supplémentaire à rattraper, c'est-à-dire prendre connaissance des mails qui sont arrivés. Moi, je rentrais de boulot, des fois j'avais une vingtaine de mails à prendre en considération, plus lire tous les chats qui ont été faits pour voir si les questions que je me pose correspondent. C'est une multiplication, si vous voulez, de boulot.
Merci d'avoir témoigné, Noémie. Gilles Roussel, président de la conférence des présidents d'université, sur ce témoignage de ce travail intense que fait actuellement Noémie.
Tout à fait. Alors c'est une situation qu'on retrouve régulièrement dans nos établissements, hein, cette transformation du jour au lendemain des modalités pédagogiques et de la façon d'appréhender les enseignements a été d'une part a dû être appréhendée par les étudiants eux-mêmes, mais aussi par les enseignants. Il y a des questions d'organisation du travail des enseignants également. On est bien conscient dans les établissements que ces nouvelles modalités de travail génèrent parfois un surcroît de travail pour les étudiants et parfois peut être très stressant compte tenu effectivement du nombre de mails qui peut arriver, des modalités, de la capacité à se connecter des étudiants qui ne sont pas tous totalement à l'aise avec les outils qui sont proposés. Et donc effectivement on fait passer des messages dans les établissements, en tout cas au niveau des présidents d'université, pour faire en sorte que les enseignants prennent en compte ces questions-là. Sur les questions étaient évoquées les questions de stress. On a mis aussi en place des écoutes par des psychologues, parce que au-delà des aspects pédagogiques, il y a des aspects effectivement liés à l'isolement pour certains étudiants qui sont loin de leur famille dans des résidences universitaires. On a des questions par rapport à la suite des études, l'insertion professionnelle qui parfois pour certains étudiants est inquiétante, la perte de job. Et donc on met en place aussi tout un tas de dispositifs pour essayer d'accompagner psychologiquement les étudiants qui se sentiraient en difficulté.
Gilles Roussel, je vous lis ce courriel de Sandrine. Les résultats de ces examens dans ces conditions très particulières, est-ce que ces résultats auront la même valeur que si on les compare aux résultats des examens l'année dernière ?
Alors, vous voyez bien là, par le témoignage qu'on a eu juste avant, que le travail qui est fourni est assez important la nécessité de produire d'acquérir des connaissances est au moins aussi exigeante à distance qu'en présentiel. C'est pour ça que effectivement, il faut qu'on fasse attention à maintenir des examens, mais qu'on soit pas non plus exigeant que les années précédentes dans ces nouvelles modalités que malheureusement, on subit aujourd'hui, mais qu'on ne maîtrise pas toujours en termes d'exigence pédagogique par rapport aux étudiants. Donc c'est cet équilibre-là qu'il faut trouver. Mais bien, il est certain qu'aujourd'hui, les diplômes qui seront délivrés cette année dans les universités auront la même valeur que les années précédentes.
On va aller à Bordeaux où Pierre est avec nous. Bonsoir Pierre.
Oui, bonsoir.
Vous vouliez intervenir, poser une question, témoigner. Allez-y.
Ouais, mais écoutez, c'était pour intervenir sur la situation des étudiants sur les campus. Un certain nombre d'échos a été fait ici de la situation de détresse de certains nombres d'entre eux. Et avant même de parler d'aménagement pédagogique, qui est une belle idée, mais qui malheureusement est confrontée à un problème aujourd'hui, c'est qu'on voudrait parler dans le collectif de solidarité continuité alimentaire à Bordeaux, qui s'est mis en place, de la détresse alimentaire d'un grand nombre de nos étudiants sur le campus. Et à ce titre, un certain nombre d'initiatives collectives ont été mises en place. Dès le début de la situation de confinement, et il faut savoir que ce sont des milliers d'étudiants isolés, loin, souvent seuls dans leur chambre universitaire, confinés, qui sont en détresse alimentaire suite à la perte de leurs revenus et de leur emploi. Et pour exemple, nous-mêmes, dans ce collectif à Bordeaux, nous sommes intervenus sur plus de 1000 étudiants auxquels nous avons dû livrer des paquets de première nécessité avec de l'alimentaire et des produits d'hygiène. Et nous devons faire face à cette détresse au quotidien sur le terrain. Et simplement, on voulait faire savoir qu'à cet égard, la préoccupation de milliers, encore une fois, d'étudiants aujourd'hui dans notre pays se porte plutôt sur la continuité alimentaire et leur situation psychosociale.
Et je précise, on me le signale, Pierre, que vous êtes un des signataires de ce texte qui a été, de cette tribune publiée dans Le Monde cette semaine avec ce titre « Privé de job, cloîtré, les étudiants les plus démunis sont tenaillés par la faim et l'angoisse ». Vous parlez, Pierre, de détresse alimentaire, donc des étudiants qui n'ont plus les moyens de se nourrir.
Exactement, souvent isolés, confinés sur des campus, parfois loin des commerce de première nécessité, ces étudiants sans revenus qui étaient déjà dans une situation chronique de précarité se retrouvent face à une situation
mais que de font aiguë. Mais que font les autorités universitaires?
Elles font ce qu'elles peuvent, très certainement. Malheureusement, les réponses institutionnelles à ce jour, et on le constate sur le terrain, sont insuffisantes, ne sont pas à la hauteur de l'urgence, comme en attestent nos initiatives. Il faut savoir que ce type de collectif de continuité alimentaire s'est également mis en place dans d'autres agglomérations, à Lyon, à Paris notamment, et ça a permis évidemment d'aider déjà des centaines et des centaines d'étudiants. Malheureusement, c'est insuffisant. Et le dispositif, à ce jour, reste insuffisant.
Réaction de Dominique Marchand, qui est présidente du CNUS, le Centre National des Œuvres Universitaires et Scolaires. Est-ce qu'on peut accepter que les étudiants ne puissent pas se nourrir? C'est pas possible, ça.
Alors, les étudiants, nous le constatons, sont en situation très certainement de précarité accrue, effectivement. Et le réseau des CROUS est extrêmement mobilisé pour y répondre. Vous savez, dans les conditions qui sont celles de l'enseignement, qui étaient évoquées tout à l'heure, plus complexes nécessairement, actuellement, il en est de même pour les travailleurs sociaux, par exemple, les services sociaux du CROUS, qui pour autant, tout en étant en télétravail, sont tous là et ont... Si on compare les chiffres de 2019 par rapport à ceux de 2020, sur la même période, de mi-mars à mi-avril, eh bien, on doublait leur activité.
Mais Dominique Marchand, vous dites que nous sommes mobilisés pour porter aide.
C'est vrai en termes de nombre d'aides qui sont apportées aux étudiants. Et vous voyez, si je prends les chiffres de Bordeaux, puisqu'il y a une intervention du collectif bordelais, eh bien, si je prends les chiffres de Bordeaux, là, ces derniers temps, eh bien, plus de 1000 rendez-vous auprès des assistantes sociales, 3000 prises de contact par mail et par tel, plus de 100 000 euros d'aide d'urgence qui ont été apportés. C'est un exemple, je pourrais en citer bien d'autres, bien entendu. Les chiffres que je vous citais tout à l'heure étaient nationaux en termes de doublement de l'activité. Donc cela témoigne effectivement de la très grande mobilisation des CROUS en partenariat avec les universités. Je pense que Gilles Roussel me rejoindra naturellement sur ces aspects-là. Sur l'extrême mobilisation des services sociaux, des CROUS, des universités qui travaillent ensemble pour répondre à ces questions-là. Alors d'une part en donnant des aides financières, nous disposons d'un levier qui s'appelle les aides spécifiques, qui représentent 48 millions d'euros en moyenne annuelle généralement, crédit que la ministre a abondé récemment de 10 millions d'euros pour justement nous aider à faire face à ces besoins.
Mais et il est certain que... Dominique Marchand, est-ce que vous m'entendez? Non, est-ce que vous m'entendez? Vous avez entendu le témoignage de Pierre à Bordeaux? Lui dit qu'actuellement, il y a des étudiants qui n'arrivent plus à se nourrir. Est-ce que vous êtes mobilisé? Vous allez faire cesser cette situation?
Mais attendez, effectivement, quand nous distribuons des aides d'urgence, c'est bien, notamment en premier lieu, pour aider les étudiants dans les aspects alimentaires. Et les choses ne s'arrêtent pas là. Il y a également des distributions de colis alimentaires et typiquement à Bordeaux, c'est exactement le cas, de distribution de colis alimentaires hors le collectif qui vient de s'exprimer. Hein. Ce sont des opérations menées conjointement par les collectivités locales, l'Université de Bordeaux et le CROUS, et qui eux-mêmes distribuent des colis alimentaires sur le campus, en ville, qui font un portage de repas, qui accompagnent au plan sanitaire, parce qu'il y a cet aspect-là aussi, bien sûr. Et donc, que ce soit à travers des aides financières, que ce soit à travers des distributions de colis, du portage de repas, je pense pouvoir dire que partout, CROUS et Université sont extrêmement mobilisés.
Au standard, avec nous, Aline à Ivry-sur-Seine. Bonsoir Aline.
Oui, bonsoir. Alors moi, je vous appelais en fait pour savoir ce qu'il en était de la fermeture des bibliothèques universitaires. Alors j'ai bien compris que les universités, elles, allaient rester fermées jusqu'en septembre, mais est-ce qu'il en est de même pour les bibliothèques ?
Gilles Roussel.
Alors oui, les bibliothèques font partie intégrante de nos universités et donc bien sûr les lieux de bibliothèques et les lieux d'études dans les bibliothèques vont rester fermés. Pour autant, on a mis en place dans la plupart des établissements l'accès à des ressources numériques autant que possible et probablement qu'on va essayer avec la rentrée de mettre en place des systèmes de prêts pour permettre aux étudiants dans les bibliothèques de pouvoir venir commander des livres et venir les chercher une fois le déconfinement terminé.
Orlane François, la présidente de la FAGE, voulait réagir, je crois, au témoignage de Pierre à Bordeaux sur les difficultés alimentaires des étudiants.
Oui, je vais être très rapide, mais faut savoir que déjà en temps normal, hors crise du Covid-19, les étudiants, en tout cas l'accompagnement social des étudiants, je ne remets pas en cause ici l'action des CROUS ou des universités, il est insuffisant. Parce que nous, à la FAGE, on gère quasiment 25 épiceries sociales et solidaires qui, tout au long de l'année, aident des étudiants sur le volet alimentaire et social qui sont pas en capacité, avec les aides qui existent, de manger à leur faim. Donc là, depuis le début du confinement, notre activité a été renforcée et dans 15 villes, 20 villes, on distribue des centaines et des centaines de paniers repas par semaine. Donc là, c'est des étudiants qui font la distribution à des étudiants. Mais évidemment, là je ne remets pas en cause l'action des CROUS ou des universités, mais par contre je remets en cause l'investissement que l'État a fait depuis le début de la crise sur la situation. Et aujourd'hui, la FAGE considère que la réponse apportée par le gouvernement, notamment l'investissement financier du gouvernement sur ce volet-là, est insuffisant pour venir faire face à la crise qu'on est en train de traverser. Et on le voit, nous, quotidiennement sur les campus, malgré les dispositifs mis en place par les CROUS ou les universités, ça ne suffit pas et il faut aller bien plus loin aujourd'hui.
Et il faudrait investir et donner plus d'argent dans quel secteur, quel domaine ?
Et il faut, pour nous, créer un dispositif vraiment national, avec des critères nationaux, qui est redirigé ensuite vers les CROUS au niveau des territoires, mais renforcer vraiment le budget des CROUS pour créer une aide qui vient en aide à ceux qui ont perdu une activité rémunérée, qui n'arrivent pas à se nourrir, etc., mais vraiment gérée par le gouvernement et donc via les CROUS et à l'échelle nationale.
Qui n'arrivent pas à se nourrir et à se loger aussi, il y a un problème là, non ?
À payer leur loyer, évidemment, on va avoir des problèmes de paiement des loyers. Alors, dans le parc du CROUS, là, c'est pour ça qu'on demande à ce qu'il y ait une suspension des loyers dans le parc du CROUS, mais également aux nombreux étudiants qui ne sont pas dans le parc du CROUS, parce qu'on a beaucoup d'étudiants qui sont en studio ou en résidence privée. Ouais. Et là, vraiment, il faut qu'il y ait un accompagnement des États qui soit bien plus fort, parce qu'on va avoir des étudiants qui ne pourront pas payer leur loyer à la fin du mois, ou bien qui devront payer leur loyer, mais ne pas manger. Voilà. Donc là, c'est vraiment, vraiment urgent.
Dominique Marchand, présidente du CNU. La suspension des loyers en ce moment dans les cités du CROUS, c'est possible ?
Alors, il faut rappeler quand même que nous avons pris des mesures pour soutenir les étudiants dans le domaine du logement. Dans la mesure, d'abord, rappeler qu'aucune de nos résidences n'est fermée, que toutes sont entretenues, maintenues et que nous multiplions les services dans ces résidences. Je pense que dans le contexte actuel, c'est déjà un élément extrêmement important.
Quelles mesures en faveur du logement ?
Alors, j'y viens. Nous avons effectivement soutenu les étudiants qui souhaitaient partir, rejoindre leur domicile familial ou originel, et donc, bien entendu, soutenu par la ministre. Nous avons fait en sorte que les étudiants qui sont partis au mois de mars ne paient pas, n'aient pas à régler le mois de préavis, et Quand ils sont partis à partir du mois d'avril, ils n'ont plus payé leur loyer. Nous avons fait en sorte aussi que leurs allocations logement soient maintenues au mois de mars, alors que normalement, pour les obtenir, il faut remplir deux conditions, payer son loyer certes, mais aussi occuper le logement. Nous avons fait en sorte également que s'ils souhaitent revenir, parce que comme le disait Gilles Roussel tout à l'heure, il se peut qu'ils aient des examens en présentiel, en tout cas pour un certain nombre d'entre eux. Et donc nous avons fait aussi en sorte que les allocations logement, ils les retrouveront tout de suite, ce n'est qu'une suspension. Par ailleurs, les étudiants qui restent donc logés dans nos résidences continuent à percevoir les allocations logement, et il faut rappeler que le logement dans les parcs des Crous sont à tarif social. C'est-à-dire qu'un studio rénové qui fait 18 ou 20 mètres carrés, une fois déduites les allocations logement, le reste à charge pour l'étudiant est autour de entre 180 et 220 euros, selon la résidence, sa situation, etc. Donc, avec tous les services qui vont avec et que nous avons multiplié ces derniers temps pour accompagner les étudiants, pour prendre contact avec eux, pour assurer des animations, pour également nous-mêmes et en partenariat avec les universités assurer un soutien psychologique, je pense que ce sont des soutiens très conséquents.
Mais supposons un étudiant qui est dans une chambre au Crous, une cité universitaire, il avait un petit boulot, il l'a perdu, ça lui permettait de payer son loyer, et là il n'a plus ce travail en raison de la situation économique, il ne peut plus payer son loyer. Qu'est-ce que vous lui dites ?
Eh bien, je lui dis de prendre contact avec nos assistantes sociales qui, encore une fois, sont extrêmement mobilisées, et une aide spécifique peut lui être apportée, y compris pour s'acquitter de son loyer s'il a des difficultés pour le faire. Que ce soit dans le parc des Crous ou que ce soit dans le parc privé, comme l'évoquait tout à l'heure Orlane François.
Gilles Roussel, président de la conférence des présidents d'université sur ces problèmes de paiement de loyer des étudiants.
Effectivement, oui, les aspects alimentaires, c'est vrai que aujourd'hui on constate que certains des étudiants sont en grande précarité. Ce que je voulais dire, c'était que on a besoin de toutes les bonnes volontés au-delà de ce qu'on sont capables de faire les Crous et les universités, puisque souvent il est assez difficile de détecter les étudiants en difficulté. On parle des étudiants dans les Crous qui sont effectivement, il y a eu un gros travail fait par l'ensemble des personnels des Crous pour aller faire du porte-à-porte. Les universités ont envoyé des SMS par milliers aux étudiants pour les détecter, les étudiants en grande précarité, mais il reste encore des étudiants qui sont en difficulté. Donc il faut que vraiment les associations étudiantes, les collectivités territoriales, le Crous, l'université, on soit tous mobilisés pour essayer d'accompagner ces étudiants, les détecter. On a les outils pour financer les pertes de stage, les accompagner en cas de problèmes de logement, de perte de travail. Et donc ce qu'il faut, c'est qu'ils viennent vers nous. Et il faut les détecter. Donc toute personne qui peut les aider à aller vers le bon guichet, permettra qu'ils passent la suite de ce confinement dans les meilleures conditions possibles aujourd'hui. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a encore hier, moi j'avais un étudiant qui était détecté, qui était en grande difficulté, un étranger qui parlait pas français et qui n'avait pas réussi à accéder aux demandes auprès de l'université. Bien sûr, on a réussi à résoudre sa situation dans l'urgence, mais c'est vrai qu'il en reste encore qui n'ont pas été détectés.
Delphine est à Vienne, elle patiente depuis un bon quart d'heure au standard. Merci, pardon Delphine, c'est à vous maintenant.
Oui, bonsoir, merci. Je voulais juste apporter un témoignage. Moi, je suis enseignant-chercheur et responsable de formation en biologie à l'École normale supérieure de Lyon. Et je voulais apporter mon témoignage déjà pour dire que c'était impossible en fait d'appliquer des mesures à l'échelle nationale, ni même universitaire, ni même à l'échelle d'une formation. Si on réfléchit, il faut descendre à la granulométrie matière, puisqu'il y a des matières en cours magistraux, des matières en travaux pratiques, etc. Donc même si je comprends l'envie des étudiants d'avoir des consignes et des règles, c'est impossible. Mais globalement, toutes les équipes sont extrêmement mobilisées. Enfin, moi, depuis la première annonce du confinement mi-mars, je passe 80% de mes journées à travailler sur les aménagements, la mise en place de la continuité pédagogique, m'assurer toutes les semaines que tous mes étudiants sont toujours connectés, que tous mes étudiants sont en bonne santé, que tout le monde va bien. J'ai des réunions hebdomadaires tous les vendredis avec tous mes étudiants. Enfin, il y a un gros travail qui est fait de la part des enseignants-chercheurs, souvent dans l'ombre. Et vraiment, tout le monde fait tout pour que l'année universitaire se termine dans les bonnes conditions, que tout le monde puisse passer ses examens et que le diplôme à la fin soit un diplôme, valable, avec une réelle valeur. Voilà.
Donc vous avez le contact, vous avez gardé le contact avec vos étudiants, vous ne constatez pas de décrochage?
Alors pour ma part, c'est plus facile parce que nous avons des promotions qui sont de plus petites en termes de nombre. Dans mon cas, moi, j'ai 41 étudiants, donc c'est beaucoup plus facile à gérer que les promotions à l'échelle universitaire, hein, j'en ai bien conscience. Mais effectivement, toutes les semaines, j'ai une réunion tous les vendredis à 18h avec mes 41 étudiants, en visioconférence évidemment. Et s'il y en a qui sont pas présents, et ben je les recontacte après pour m'assurer que c'était parce que ben ils n'avaient pas envie ou ils avaient autre chose à faire, mais pas parce qu'il y avait un problème. Et tous les débuts de semaine aussi, grâce à mes collègues qui participent au travail, tous les étudiants reçoivent un mail pour vérifier qu'ils vont toujours bien et qu'ils n'ont pas de problème particulier.
Très bien, merci d'avoir témoigné, Delphine, au Standard à Lille. C'est Catherine qui est avec nous maintenant. Bonsoir Catherine, bienvenue.
Bonsoir.
Sur l'antenne.
Bonsoir, je voulais poser une question sur le sort des étudiants en Master 2 qui doivent effectuer un stage de 6 mois pour valider leur master et dont le stage a été purement et simplement annulé à la dernière minute du fait du confinement. Donc qu'est-ce qui va être prévu pour que leur année puisse être validée? Est-ce que, alors qu'ils ne peuvent plus chercher des stages maintenant, et puis en plus le stage c'est une étape importante et déterminante même pour l'avenir professionnel de ces étudiants. Donc c'est une double gêne.
Réponse d'Orlane François, présidente de la FAGE.
Oui, alors pour rebondir déjà sur sur le premier témoignage qu'on a eu à l'instant. En effet, encore une fois, je remets pas en cause l'investissement qui est remarquable pour beaucoup d'enseignants sur la continuité pédagogique, mais comme madame l'a expliqué sur les promotions de d'étudiants en licence 1 qui sont 800 ou 400,
oui,
c'est beaucoup plus compliqué de d'identifier ces personnes-là.
C'est le témoignage de Delphine. La question que vient de soulever Catherine à Lille.
Alors sur la question des stages, il y a plusieurs réponses qui sont envisageables. Je pense que Monsieur Roussel pourra réagir également. Il y a des enjeux aussi de. Alors il y a soit des possibilités pour le stage d'être neutralisé et remplacé par une autre activité qui est tout aussi intéressante pour l'étudiant, ou bien le stage a pu continuer parce que il pouvait s'effectuer en télétravail comme beaucoup d'employés aujourd'hui sur le territoire français, ou bien en cas extrême et avec accord de l'étudiant, si c'est possible, d'avoir un petit décalement dans le temps. Voilà. Mais il y a des solutions qui peuvent être trouvées, qui sont adaptables et évidemment qui doivent être trouvées pour ne pas pénaliser l'étudiant. Oui. Et juste pour réagir à un élément qui a été redit aussi tout au début sur la question de la valeur du diplôme d'aujourd'hui, ne résumons pas un cycle entier de formation, de licence, du coup de 3 ans, ou bien de master, et donc de 5 ans, à un mois de cours en moins. Voilà. Il faut aussi s'en mettre dans la tête que le cycle de formation a duré 3 ou 5 ans, qu'il y a des compétences qui ont été acquises à ce moment-là, et que on ne va pas dévaloriser les diplômes parce qu'il y a eu un mois de cours à distance. Attention, et ça c'est vraiment essentiel.
Gilles Roussel, sur le cas de Catherine, son fils étudiant en dernière année de master, il devait effectuer un stage qui a été annulé.
Oui, je crois qu'Orlane François a dit oui. L'essentiel, hein, décalage, transformation du stage dans d'autres modalités, éventuellement un travail particulier à faire, éventuellement raccourcissement également du moment du stage. Et en général, effectivement, en dernière année, avant l'insertion professionnelle, il y a ce besoin de stage, et donc on essaye de trouver des solutions pour que les étudiants puissent continuer leur stage. Mais il y en a quand même beaucoup qui ont réussi à poursuivre leur stage dans la mesure du possible. Soit parce qu'ils étaient dans des activités qui restaient prioritaires et ils ont pu continuer leur stage, et d'autres sont passés en télétravail. Donc pour ceux qui n'ont pas pu faire leur stage pendant la période, eh bien on trouvera et on essaiera de trouver des nouvelles modalités pour eux. Et je voulais également aussi intervenir par rapport à la question de l'investissement. J'aurais voulu saluer l'ensemble des collègues, hein, qui sont investis très très fortement effectivement dès les premiers jours pour transformer leurs cours qu'ils avaient l'habitude de faire en présentiel à distance. C'est vraiment une excellente chose. Hein. Ils ont vraiment fait leur maximum et je voudrais les en remercier à l'antenne aujourd'hui. Voilà. Et par rapport aux questions de décrochage d'un certain nombre d'étudiants, c'est vrai que quand on a des promos d'une quarantaine d'étudiants, comme ça peut être le cas en master par exemple, c'est assez différent de promotions comme les premières années de licence où là effectivement on constate. Mais ce n'est pas dû uniquement au distanciel que il y a plus d'étudiants, parfois jusqu'à une dizaine ou quinzaine de pourcents des étudiants dont on a des difficultés avec lesquels on a des difficultés à garder le contact.
Est-ce qu'on peut s'attendre à un fort pourcentage de décrochage justement en première année de licence à cause de cette situation actuelle et de toutes ces perturbations?
Il va falloir qu'on soit vigilant par rapport à ça, effectivement, pour détecter est-ce que ces décrochages sont des décrochages habituels, hein, est-ce que là on les a détectés puisque on a changé les modalités et qu'on a fait, comme ça a été dit tout à l'heure par la collègue enseignant chercheur, on a essayé de les contacter de façon très régulière et donc on s'est aperçu qu'ils étaient absents et qu'ils ne répondaient pas à nos sollicitations pédagogiques. C'est ce qu'il faudra qu'on vérifie et s'assurer que si ce n'est pas pour des raisons habituelles d'arrêt de formation parce qu'ils ont décidé de se réorienter, eh bien il va falloir mettre en place des modalités pédagogiques pour leur permettre de réussir leur année et éviter un taux d'échec effectivement dans ces premières années qui soit plus élevé que d'habitude parce qu'il n'y a pas de raison que les conditions actuelles interdisent aux étudiants de poursuivre leurs études.
Marie à Paris, bonsoir Marie.
Bonsoir, merci beaucoup de m'avoir pris en ligne. Merci à France Inter pour la qualité de ces émissions.
Merci à vous.
J'aimerais attirer l'attention sur la situation de certains étudiants dans une fac parisienne qui est bien connue, où, en fin de compte, là, on n'a pas du tout l'impression qu'il y a de la bienveillance. De la part de certains professeurs, si, il faut quand même le reconnaître, mais pas de la grande majorité. Et on a plutôt l'impression que les profs pensent que les élèves ont des grandes vacances et qu'on peut leur donner de ce fait plus de travail, leur en demander plus. Visiblement, les examens sont en cours de préparation et les élèves sont très inquiets, très stressés, très angoissés. Et je voulais aussi dire que ces étudiants, ma fille en fait partie, ne sont pas forcément des élèves, même s'ils sont dans une belle université parisienne, forcément favorisés. Et ils ont très peur parce qu'ils sont angoissés, parce qu'ils n'ont pas l'habitude du télétravail et tout ça. Ils sont habitués à aller en cours en présentiel. Et ils ont l'impression qu'il n'y aura pas d'égalité, il n'y aura pas d'équité sur l'ensemble des étudiants en France. Et je pense qu'ils ont entendu parler d'indices améliorables pour la Sorbonne. Pourquoi pas pour les autres universités? Pourquoi, même si les universités sont indépendantes, pourquoi ne pas prendre une décision au sommet, au niveau du ministère?
Réaction de Gilles Roussel.
Alors, comme j'expliquais tout à l'heure, il n'est pas possible de prendre des décisions au niveau national sur les modalités, puisque à certains endroits, les examens, enfin les enseignements étaient finis quasiment, et certains éléments en contrôle continu permettaient déjà de valider l'année au moment du début du confinement. Donc, il n'y a pas de règles nationales, et comme l'expliquait l'enseignante chercheur que nous avions tout à l'heure au téléphone, en fait, c'est même par unité de formation.
Mais ça vous surprend, unité d'enseignement. Est-ce que ça vous surprend ce que dit Marie, que donc dans certaines universités, elle ne cite pas exactement, enfin une université à Paris, semble-t-il, on demande beaucoup de choses. Alors, dans ce télétravail, dans la préparation des examens, c'est très très dur, c'est trop dur.
Ouais. Ce qui est certain, c'est que au démarrage, et comme je le disais tout à l'heure, au démarrage du télétravail, certains enseignants, ne maîtrisant pas totalement ces nouvelles modalités pédagogiques, ont eu tendance à donner plus que nécessaire, être probablement plus exigeants, et ce qui a généré parfois des fortes inquiétudes des étudiants. Donc moi, ce que je conseille à cette dame, c'est de dire à sa fille de prendre contact avec ses responsables de formation. Le responsable de formation suit globalement les étudiants. Il est bien conscient des difficultés que peuvent avoir certains pour le télétravail, notamment pour l'accès au numérique, parce que dans une famille, on peut avoir un ordinateur pour 5 personnes et qu'il n'est pas toujours possible d'être toute la journée derrière son ordinateur, oui. Pour suivre les cours. Et donc, il faut bien sûr aller voir les responsables pédagogiques. Il y a aussi des délégués d'année dans toutes les formations, se rapprocher d'eux. Oui. Ils peuvent faire valoir les difficultés qui sont les leurs. Et donc, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à trouver des solutions pour permettre à chacun de réussir comme il aurait réussi dans d'autres conditions.
Orlane François, présidente de la PAJE.
Oui, pour réagir, nous, en effet, c'est ce qu'on a aussi demandé et que nos élus locaux dans les universités demandent, c'est qu'il y ait une vraie coordination dans les équipes enseignantes, déjà parce que il faut pas redoubler le travail demandé par rapport à d'habitude, et ensuite parce que il faut aussi être vigilant dans la coordination des demandes entre les équipes et entre les différents enseignants, parce que si les enseignants demandent tout au même moment, l'étudiant qui doit travailler, etc., va être vite submergé. Et puis ensuite, même si je comprends en effet qu'il y a des modalités qui doivent être décidées au local dans chaque formation. Par contre, on est dans une situation un petit peu exceptionnelle qui, je pense, demande des réponses parfois un peu exceptionnelles et que certains cadrages pourraient quand même se dessiner à l'échelle nationale, notamment sur le fait de garantir, pourquoi pas, nous, ce qu'on demande, c'est une troisième chance en présentiel quand ça sera possible pour des étudiants qui seraient vraiment en rupture et qu'on n'arriverait pas à identifier.
Dernière question, c'est un courriel. C'est Jean-Jacques qui nous écrit. C'est pour vous, Gilles Roussel, le président de la conférence des présidents d'université. Les universités vont-elles, après cette crise, devenir des plateformes numériques avec des cours vidéo pour l'essentiel? Bref, est-ce que c'est fini l'enseignement en salle?
Alors c'est une excellente question qui est posée par cet auditeur. Effectivement, les questions qu'on se pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui va se passer à l'issue du confinement et comment nous allons appréhender la rentrée prochaine. Nous espérons tous que nous pourrons continuer à faire nos enseignements en présentiel, et il me semble très important, le contact avec les étudiants fait partie de la transmission des savoirs. Pour autant, il faut que les universités se préparent aux accidents du même type que celui qu'il y a aujourd'hui, et donc on a montré qu'on était capable de réagir et de mettre beaucoup de choses en ligne avec certaines limites, comme on vient de le dire tout à l'heure, mais je ne pense pas qu'on transforme tout. En revanche, le recours au numérique probablement va de plus important dans nos formations, puisque aujourd'hui on a montré que on était capable de le faire dans la plupart des cas. Mais ça veut dire aussi qu'il faut qu'on accompagne les étudiants pour qu'ils aient les moyens de suivre leurs enseignements. Il faut qu'on coordonne les équipes, comme ça a été expliqué par Orlane François. Voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais on sera probablement pas totalement en ligne demain.
Merci à nos invités Orlane François, Dominique Marchand et Gilles Roussel. C'est maintenant un artiste qui nous fait partager son confinement chaque soir sur France Inter à cette heure-ci. Et Vincent Delerme est avec nous en ligne, au bout d'une ligne numérique. Bonsoir Vincent Delerme.
Bonsoir.
Où êtes-vous actuellement, confiné, isolé peut-être?
Oui, vous allez voir, c'est très passionnant, mon quotidien.
Allez-y, racontez-nous.
Non, je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez, posez-moi une question.
Mais où êtes-vous actuellement? À Paris? En province?
Oui.
À l'étranger?
Oui, je suis resté chez moi. En fait, je suis content de ça, parce que de ne pas être parti à la campagne et tout ça, parce que j'avais un peu mes claviers chez moi, je peux trier un peu des photos, et puis pas mal de trucs que je devais ranger depuis un moment de toute façon. Mais c'est vrai que j'ai pas mal d'objets que j'aime autour de moi, et ça me plaît plutôt, ouais.
Vous écoutez de la musique?
Il y a un peu deux phases. Il y a la phase de la journée, j'ai deux enfants, donc on essaye quand même, le confinement consiste pour beaucoup, en dehors du fait de faire des devoirs scolaires, à essayer de mettre une ambiance correcte et qui réfléchissent pas trop, qui se posent pas trop de questions. Ouais. Donc là, c'est la partie musicale, soit brésilienne, soit je sais pas quoi, mais en tout cas, voilà, plutôt solaire. Et puis après, il y a un temps le soir, justement, une fois que les enfants sont couchés à 22h, où on écoute des trucs un peu plus soft, et comme Nils Fram ou Peter Broderick, ou des artistes comme ça que j'aime bien. Oui.
Mm-hmm. Peter Broderick, bien sûr, un multi-instrumentiste formidable américain avec son piano. Et que faites-vous d'autre, Vincent Delerme? Dites-nous.
Écoutez, c'est vraiment, comme pour beaucoup de gens, j'ai l'impression assez étrange de voir à quel point, alors qu'on a sur le papier pas grand-chose à faire, tourner très vite. Mais encore une fois, je pense qu'il y a quand même une grosse différence entre les gens qui ont des enfants et ceux qui n'en ont pas. Mmh. Sur ce confinement, mais voilà, régulièrement, j'essaye souvent d'écrire des choses, mais finalement la photographie marche mieux dans ce contexte-là. Le fait d'essayer de, quand on écrit des chansons, on essaie souvent de proposer une sorte de filtrage ou d'amélioration de la vie, en tout cas de faire un résumé de ces journées par les chansons. Et en ce moment, c'est plutôt la photo qui permet de faire ça. Et voilà, mais bon, comme beaucoup de gens, on se sent un peu vide et un peu démuni et n'ayant pas beaucoup de réponses à apporter. Donc c'est aussi pour ça que moi j'interviens assez peu. Là, je suis très content de faire votre émission, mais par ailleurs, j'ai pas fait de live sur Instagram ou nulle part. Et je raconte assez peu mon quotidien, parce que j'ai l'impression que c'est le même que celui de tout le monde. Donc ça.
Ah, justement, Vincent Delerme, le titre de votre dernier album, c'est Panorama, avec cette chanson « Je ne sais pas si c'est tout le monde ». Est-ce que vous avez le sentiment qu'actuellement, on vit tous la même épreuve, ce confinement? Est-ce qu'on vit cela vraiment comme tout le monde, ou alors c'est plus dur pour certains et plus facile pour d'autres?
Ah bah oui, c'est sûr que on peut vraiment pas parler au nom des autres dans un moment comme ça. C'est sûr que évidemment de par les conditions de vie, la taille d'un appartement, ou au contraire le fait de vivre dans un espace très très réduit, le fait d'avoir la chance d'habiter dans un appartement qui est pas immense mais qui est lumineux parce qu'il est assez haut, donc rien que ça, c'est sûr que c'est un luxe dans un moment comme ça. Mais après, c'est plutôt que, en général, je ne sais pas si tout le monde, c'est ce qu'on essaye de faire quand on écrit des chansons. On essaye de parler d'un truc qu'on aurait vécu soit tout seul et qu'on pourrait être le seul à avoir traversé. Et en fait, au fond de soi, on espère que les gens vont vous dire « Ah, mais moi, ça m'a fait pareil, j'ai vécu la même chose ». Donc là, on est dans une phase un peu étrange à ce niveau-là, parce qu'on ne peut vraiment pas parler au nom des autres.
Merci Vincent Delerme d'avoir été avec nous pour nous raconter votre confinement. Merci beaucoup.